Le carillonneur, première partie, chapitre 13. Un lundi, après la coutumière réunion du soir chez le vieil antiquaire, Pharazine accompagna Borlut dans la direction de sa demeure. Ils s'attardèrent, cheminèrent au hasard, entraînés par le plaisir de causer, d'errer à la dérive au long des quais. Il y avait une légère brume dans l'air qui vêtait de prestige frêle la ville nocturne. La lune, par minute, se dégageait toute, claire, obscure d'argent. Et quelle féerie de voir soudain la lune regarder la lune dans l'eau. Borlut et Pharazine étaient déjà d'anciens amis, se sentaient les cœurs très proches dans cette solitude d'ombre. Ils ranimèrent le passé commun, les longs souvenirs, leur première foi civique dont on avait constaté ce soir-là, chez Van Hul, le lent affaiblissement. La réunion d'aujourd'hui fut mélancolique. On causa peu. Les paroles se traînaient, il y avait chaque fois entre elles un silence, comme il y en a entre les coups de cloche. Or, si les cloches affligent, c'est moins à cause de leur son triste qu'à cause de ce silence qui suit. Un de ces longs silences où le son meurt, tombe dans l'éternité. D'ailleurs, les beaux temps de la cause semblaient révolus. L'antiquaire, qui en fut la première âme, en fièvre et en fête, vieillissait décidément. Il apparaissait désintéressé de la vie extérieure, orienté vers des joies intimes et secrètes. Quant à Bartholoméus, il ne fut des leurs que par rancune, parce que ce mouvement flamand, prenant les allures d'une conjuration, pouvait aussi exprimer son irritation, propre d'être une force sans emploi. Maintenant qu'il avait reçu la commande d'une fresque communale, il était pacifié, tout ressaisi par sa joie de l'œuvre et son culte mystique de l'art. Même Pharazine, prolixe et exalté, ne parlait plus beaucoup. Assistait aux réunions chez l'antiquaire, plutôt par routine. J'y vais pour voir Godelive, déclara-t-il à Borlut, en s'en revenant avec lui. Borlut ne répondit rien. Oui, elle est charmante à regarder. Et il se complut à la décrire, à parler de ses cheveux si blonds, de son pensif sourire, du mouvement joli de ses mains jouant avec les fuseaux quand elle faisait de la dentelle. Il l'évoqua toute, textuelle et présente, lumineuse parmi cette ombre nocturne de Bruges où il déambulait. Borlut écoutait, un peu étonné, bientôt stupéfait. Il commença à comprendre. Pourquoi n'avait-il rien deviné durant ces réunions du lundi où, certes, main regard, inflexion de voix, nuance dans l'adieu et le serrement de main aurait dû lui faire soupçonner ce qui maintenant s'avérait. Décidément, il était peu clairvoyant dans la vie. Nulle antenne à sa sensibilité. Il ne voyait rien arriver des choses. Il ne les savait qu'à la minute du contact immédiat avec elle. Ainsi donc, le charme gothique de Godelive avait opéré, sans parole à coup sûr, ainsi qu'opère le charme d'un paysage. Telle était l'impression, calme et profonde, suscitée par elle. On la regardait comme on regarde l'horizon. À vrai dire, il était étrange que ce charme eût opéré vis-à-vis de Pharazine, d'une nature extérieure et lyrique, aimant la mise en scène de soi, le bruit, la domination. Est-ce que vraiment l'amour naît des contrastes? Mais d'abord, Pharazine aimait-il Godelive? Ou n'éprouvait-il qu'un trouble furtif, une émotion à fleur de cœur pour l'avoir trop regardé ce soir-là, un accident sentimental qui n'aurait pas de suite? Pourtant, Pharazine avait continué à énumérer sa grâce innombrable, et il conclut « Ce serait une femme délicieuse !»« Je crois qu'elle ne se mariera pas, » fit Borlut. « Pourquoi ?» « D'abord parce que son père serait trop triste. »« « Je sais, reprit Farazine, il l'adore, la couve pour ainsi dire. Pauvre vieux !»«
Oui, personne n'en peut approcher. Elle ne sort jamais sans qu'il l'accompagne. Chez lui, il est toujours à ses côtés. Chacun est comme l'ombre de l'autre. » »«
N'importe, observa Farazine, elle doit rêver une autre existence. » Alors, il se démasqua soudain. Entra dans des confidences, confia à Borlute que Godelive lui plaisait infiniment et qu'il songeait à l'épouser. Depuis longtemps, il avait cherché à se déclarer. Mais qu'est-ce que l'aveu du regard, le fluide du visage, l'insistance de la main dans la main? Faible signe, surtout que Godelive a toujours l'air absent et regarde ailleurs avec ses yeux distraits, des yeux qu'il faut sans cesse ramener, renouer à la conversation. Il avait tenté aussi, pour être plus explicite, de la trouver seule un instant aux réunions du lundi soir, soit en arrivant avant l'heure, soit en s'attardant le dernier. Mais jamais l'antiquaire ne la quittait, gardien minutieux de son trésor. Farazine proposa à Borlute d'être de connivence avec lui. Ce serait agréable pour tous les deux qu'ils fussent liés par des liens de famille, et utile aussi, au point de vue de leur influence et de l'orientation de la cause. Donc Borlute pourrait, par exemple, inviter Godelive, un de ses prochains dimanches, à dîner chez lui, seul. Lui-même serait invité aussi ce jour-là, et après le repas, on les laisserait à deux, un moment, comme par hasard. Un dîner eut lieu, conformément à leur amical complot. Le vieil antiquaire avait bien maugré, mais puisqu'il était un peu impotent et valétudinaire en ces mois de neige et d'hiver âpres, il dut renoncer, cette fois, à accompagner Godelive. Le repas ne fut point morose. La table rit du rire des argenteries et des cristaux. Chacun semblait avoir guéri sa peine intérieure. Un air de fête circulait. Farazine parla beaucoup, avec grâce, avec force, une jolie abondance, un flux et un reflux d'idées, ingénieusement combinés pour déferler en vagues câlines vers Godelive. Il parla de la vie, des combats de l'homme et de l'amour, qui est pour lui la bonne étape, la halte, le relais nécessaire, auberge du sourire et des tendres soins. Barbe aussi s'animait, un peu incrédule sur le bonheur, sur l'importance de la passion. Farazine s'obstina, plaida, eut des paroles de flammes et de fleurs, toute cette éloquence un peu bariolée et facile qu'il tirait à tout propos de lui, phrases creuses, bulles multicolores, avec lesquelles il jonglait sans fatigue et inépuisablement. Godelive demeurait impénétrable. Quand on eut servi le café, Barbe s'éloigna sous un prétexte. Yoris la rejoignit au bout de quelques minutes. Quand ils rentrèrent dans la salle à manger, une heure après, le crépuscule envahissait déjà la vaste pièce. Jour si vite abrégé en ces hivers du Nord. Godelive et Farazine étaient toujours assis à la même place. Aucun d'eux n'avait bougé. Barbe comprit de suite que nul rapprochement n'avait été possible. Leurs paroles ne s'étaient pas jointes un instant. Ils avaient conversé des deux côtés de la table, comme des deux côtés d'un fleuve qu'on ne traversera jamais. Le soir venait, prématuré, à cause des rideaux simplement drapés aux fenêtres. De l'ombre descendit dans la chambre, descendit en eux. Fin du jour. Et fin de l'amour. On ne songea pas à allumer des lampes, comme s'il valait mieux cette demi-obscurité, afin de lui imputer le demi-silence d'une conversation qui suivait un désastre et ne pouvait plus se reprendre. Bientôt, Farazine se leva, prit congé, l'air un peu confus, désarçonné de cette belle assurance qui sans cesse piaffait. Dès qu'il fut parti, Barbe s'élança vers Godelive, l'interpella. « Tu as refusé ?»«
Quoi ? Ne fais pas la cachotière. Tu as refusé, je m'en doutais. » Godelive ne parut pas s'émouvoir. Elle répondit de sa voix très douce : « Je ne tiens pas à me marier. » Puis elle ajouta, avec une minime nuance de reproche, tout au plus un peu d'ombre, le reflet d'un nuage sur sa voix de lumière : « D'ailleurs, vous auriez mieux fait de me prévenir, de me consulter à l'avance. » Aussitôt, Barbe ne déguisa plus son mécontentement. Godelive hésita à répondre. Ce n'est qu'au bout d'un moment qu'elle déclara « J'aime mieux rester avec notre père. » Elle avait eu des italiques dans la voix. Barbe, avec son humeur ombrageuse, y vit une ironie ou une attaque. Tout de suite, elle s'irrita. « Tu es absurde, notre père. Tu veux insinuer sans doute que toi seul tu l'aimes ? Oui, de cette façon-là, avec tes fadeurs. » La conversation s'envenimait. Godelive ne parla plus. Yoris essaya d'intervenir, d'intercaler des paroles pacifiantes. Barbe se retourna contre lui. « Est-ce que tu vas me donner tort maintenant ? Et c'est toi qui les as invités ?» Barbe, nerveuse, se leva, s'assit, arpenta la chambre. Elle parla toute seule, et penchant des plaintes, des griefs, le regret du beau projet avorté, des reproches et des emportements contre Yoris, contre Godelive, qui se taisaient comme s'ils étaient devenus du même avis. Elle se tourna vers Yoris. « Mais toi, parle donc, persuade-la, dis-lui aussi qu'elle est déraisonnable. » Peu après, Barbe sortit, faisant claquer la porte, devenue furieuse, laissant dans la chambre un sillage de tempête, le vent de sa jupe qui avait balayé l'air. Le crépuscule s'était aggravé. Yoris et Godelive se retrouvèrent, doux et meurtris. Ils demeurèrent face à face, sans rien dire. Ils se voyaient à peine. Ils se furent réciproquement une apparition consolante, une ombre muette, et qui est déjà comme le souvenir d'elle-même, ce qui subsiste dans les miroirs et dans la mémoire. Après les véhémences de Barbe, tous deux goûtèrent la douceur du silence. Un silence comme convalescent et qui ne veut pas qu'on le violente. Ils sentirent que rien ne devait être dit. Dans le silence, les âmes se comprennent. Yoris avait deviné une volonté définitive, des raisons mystérieuses dont il ne faut pas approcher et contre lesquelles les mots ne peuvent rien. À peine une minute, parce que Barbe l'avait voulu, mais si discrètement, il osa conseiller Godelive, plaider un peu pour son ami évincé. « Il faudrait peut-être mieux vous marier. » Mais Godelive l'avait arrêté. D'un geste si suppliant, avec un visage si navré. « Oh, ne dites pas cela, vous, surtout vous !» Ce cri la dévoila toute. Ce fut comme ces éclairs où le fond des vallées apparaît. Yoris connut les régions profondes de son âme. Il comprit ce qu'il avait à peine soupçonné, presque oublié, depuis le temps où l'antiquaire lui avoua étourdiment le trouble de Godelive. Il avait cru à un de ces vagues émois, comme en ont toutes les jeunes filles, élan d'un cœur qui se pose au hasard, déploiement d'ailes au bord du nid. Maintenant, il pressentait qu'elle avait eu pour lui un vrai amour, peut-être. Était-ce à cause de cet amour qu'elle demeurait désenchantée, refusait tout nouvel essai de bonheur? Était-elle de celles qui, après une épreuve unique, jettent la clé de leur cœur dans l'éternité? Yoris continua à la regarder, sans rien dire, sans plus la voir, perdue dans des songeries, évoquant le charme triste quand les choses non abouties, les projets renoncés, les voyages manqués, tout ce qui pouvait être et n'aura pas été. Chapitre 14. Le foyer de Borlute devenait de plus en plus morne. Le mystérieux état de nerfs de Barbe empirait. Ses irritations étaient fréquentes et durables maintenant. Encore et toujours, pour des riens, une contrariété de ménage, le bris d'un objet, une contradiction, le moindre malentendu. Elle s'emportait, tombait à des colères instantanées, des rafales qui ne laissaient après elle que des feuilles mortes. Mais, au surplus, désormais, la crise persistait, transformée, aboutie à des prostrations, des idées noires, une face livide où des larmes coulaient, comme la pluie sur un tombeau. Ioris, apitoyée, quoique encore meurtrie et le cœur en sang de l'alerte, tentait alors des paroles douces, un baume d'amitié et de réconciliation. Il aventurait une main calmante sur la main, un attouchement vers le visage, essai de fluide. Barbe le repoussait avec dureté. Et sa bouche, qui semblait un fermoir, se rouvrait soudain pour une explosion de mots violents, une chute nouvelle de cailloux. Ioris ne savait plus de quelle façon agir, répondre, pallier ces scènes, d'où il sortait l'âme comme courbaturée. Il avait beau chercher à les éviter, elles se produisaient d'elles-mêmes. On aurait dit que Barbe avait ses saisons d'humeur, son équinoxe au retour régulier. En vain aussi se traçait-il à l'avance un plan de mutisme et d'immédiate concession. Il ne s'en trouvait pas moins, chaque fois, tout dépourvu, incapable de déchiffrer ce grimoire de nerfs. D'abord, il avait cru simplement à un caractère mauvais, une nature irascible et fantasque. Maintenant, il ne pouvait pas s'empêcher de supposer qu'il y avait une part d'inconscience dans les accès de Barbe. Il se disait « Évidemment, c'est une malade !» Et il songeait aux étranges névroses qui de tout temps ont avili l'humanité, échevaux intérieurs qui ligotent la volonté et toute l'âme, fléau empiré en ce siècle par suite du déclin des races et de l'hérédité accumulée. Pour Barbe, il se rappelait qu'on lui raconta la mort prématurée de sa mère, victime aussi d'un mal obscur. « N'importe, disait Borlute, qu'elle soit malade ou simplement méchante, je n'en souffre pas moins, et j'en souffre à cause du doute. Où commence la maladie et la méchanceté? Jusqu'à quel point est-on conscient ou inconscient? Si la colère monte d'elle-même, encore choisit-on ses mots? Et ainsi la haine hésite, alterne avec la pitié. Quoi qu'il en soit, concluait Borlute, elle a fané ma vie. » Il s'attendrissait alors sur lui-même, pleurait sa destinée sans issue, et qui n'avait même pas la douceur de la douleur. D'autres foyers sont attristés par les maladies, mais il y a les maladies dolentes et qui font qu'on aime davantage. La femme s'affine de pâleur, s'angélise. C'est doux et triste comme la veille d'un départ. Les rideaux du lit ont des frissons de voile. Des états maladifs comme celui de Barbe, en supposant qu'elle ne fût pas simplement mauvaise, étaient crispés, hostiles, décourageant les tendres soins, repoussant toute potion calmante, viciant les fleurs qu'on apporte pour compagne. Ces maladies-là excèdent et font bientôt qu'on se détache. Ioris sentait son amour fini, après tant de ballottements, d'alternatives douloureuses entre des violences et des retours de tendresse. Flux et reflux qui joua avec sa joie. Enfin, il avait retiré son cœur de ses jeux de marée. À présent, il se jugeait reconquis, rendu à lui-même, indifférent aux péripéties quotidiennes. Rentré seul dans cette dernière chambre de son âme, où chacun peut enfin s'atteindre et se posséder soi-même. Une peine lui survivait. C'était de n'avoir pas au moins la compensation des enfants, et qu'il y eût autant de silence dans sa demeure que dans son âme. Ceci aussi était la conséquence, sans doute, de l'état de Barbe. Pourtant, naguère, il rêvait tant d'avoir un jour une famille nombreuse. Il se rappelait, quand ils furent fiancés, avoir conduit Barbe au musée devant le grand triptyque de Memling, où figure Sainte Barbe, sa patronne, et s'être ému devant les donateurs, entourés de leurs 11 enfants, famille patriarcale, visages juxtaposés et ressemblants. Lui-même s'était imaginé un foyer comme celui de ce Guillaume Morel, bourgmestre de Bruges, que Memling avait peint. Maintenant, le beau rêve aboutissait à la femme sans amour et à la maison sans enfant. Bourlut, au surplus, ne voyait guère de monde, peu liant, ennuyé des conversations banales et des fréquentations quelconques. Sa vieille maison, Audifeur, avec sa façade noircie, ses hautes fenêtres à petits carreaux en des châssis de bois, d'un vert verdâtre, couleur du canal qui est en face, reposait, somnolente, close, les stores baissés, comme la demeure d'un absent. À peine sonnait-on. C'était un fournisseur ou un client. Barbe n'avait aucune amie. La sonnette faisait un bruit bref, comme pour rendre plus sensible et vaste l'immuable tranquillité. Puis aussitôt le corridor redevenait un chemin de silence. Bourlut n'allait même plus aux réunions du lundi soir chez l'antiquaire. C'était une dernière distraction qui lui manqua. Elles avaient cessé d'elles-mêmes, pour ainsi dire, chacun espaçant ses présences, renonçant. Bartholoméus s'était cloîtré, afin de se concentrer sur sa fresque en train, pareille de plus en plus aux béguines parmi lesquelles il travaillait. Quant à Pharazine, depuis son aventure de cœur avec Godelive, il lui était difficile de se retrouver, chaque semaine, toute une soirée, devant elle. D'ailleurs, il s'irrita de son refus, rompit même avec Bourlut, lui imputant, à lui et à sa femme, d'avoir plutôt dissuadé la jeune fille. Il y avait eu des indiscrétions, des racontards, des malignités dénaturant l'affaire. Bourlut s'apparut seul. Alors, détaché de tous, il retrouva, invincible et plus ardent, son amour de la ville. Au fond, il n'avait jamais vécu que pour ce rêve et dans ce rêve. Parer la ville, la faire belle entre toutes les villes, même quand il montait au beffroi, s'exténuait au lourd jeu du carillon. C'était pour l'embellir, la couronner de cette couronne de fleurs de fer. Tous ses travaux de reconstitution et de restauration allaient aux mêmes fins, pour que chaque rue eût sa surprise, son blason de pierre, sa façade ornementée comme une chasuble, ses sculptures mouvementées comme une treille. C'est lui qui avait sauvé de la mort tous ces trésors du passé, qui les avait exhumés du plâtre, du mortier, du badigeon, des briques, du vil suaire de l'ignorance. Il les avait ressuscités. C'est donc comme s'il leur avait donné la vie, les avait créés une seconde fois. Grand effort, clairvoyant génie. On commençait à s'en rendre compte dans le pays. Par une douloureuse ironie de la vie, à mesure que son foyer s'assombrissait, sa situation grandit. Les travaux, les commandes affluèrent. Il retrouva et remit à neuf des centaines de maisons des 15e et 16e siècles. De plus, il venait d'achever sa reconstitution de la Grutus qu'il considérait comme son chef-d'œuvre. Le vieux palais, quand on le lui livra, était tombé dans la misère. Triste déchéance d'une noble architecture où l'on voyait encore sur la façade les armoiries de Jean d'Aa, seigneur de Séan, adopté par lui en 1340. Le roi d'Angleterre y avait séjourné lors des guerres de la Rose Rouge. Maintenant, l'antique palais avait abouti au pire. Il servit de mont-de-piété, hardes des pauvres parmi ses murs qui semblaient eux-mêmes les hardes des siècles. Pauvreté dans de la pauvreté, comme des larmes dans la pluie. Bourlut avait regardé le palais, ainsi qu'on regarde un mendiant. Comment faire que le mendiant laisse tout à coup choir ses guenilles et apparaisse vêtu de merveilleuses étoffes, de bijoux rares, d'un luxe de prince rentrant dans sa ville? Comment se décrasser de la souillure des âges? Borlute accomplit le miracle. Il galvanisa les ruines. Il rendit la vue aux fenêtres aveugles, guérit les pignons perclus, fit se dresser les tourelles accroupies. Il ranima les bas-reliefs, rongés par la pluie et le temps, visages en fuite, souvenirs perdus dans la mémoire qui soudain émerge, se précise. Un renouveau régna. La balustrade à jour se continua sans arrêt. Les fleurons furent printaniers. Les ogives tendirent leur arc neuf. La restauration de Borlute était achevée. Qu'allait-il advenir du vieux palais reconstitué? Mais est-ce que les choses ne s'appellent pas? Il y a des analogies mystérieuses. Un rythme conduit l'univers. Les destinées s'harmonisent. Quand la maison est bâtie, vient l'hôte qu'elle mérite et qui devait venir. Ainsi, quand le palais de la Grutus était un mendiant, là, des longs chemins de l'histoire, assis au bord d'un quai de Bruges, il ne connut que les pauvres, ceux qui lui ressemblaient. On en avait fait le monde-piété. Au contraire, dès que le palais, comme touché par un magicien, redevint lui-même, sa destinée changea. À ce moment, mourut une vieille douairière qui légua, pour y être conservée et exposée, une merveilleuse collection de points de Bruges. Le palais étant maintenant une dentelle de pierre, il fallait qu'il devînt un musée de dentelles. Attirance mystérieuse, tout correspond. On se mérite à soi-même ce qui advient. Et les événements s'accomplissent selon qu'on a fait son âme. Dans les salles furent disposées les frêles merveilles brodées à l'aiguille, brodées au fuseau. Il y en a qui durent consumer toute une vie. Quelques-unes constituent un vrai tableau, telle cette chasse où l'on voit le chasseur, le chien, les perdreaux, telle cette passion signée en 1529 par la sœur de l'évêque de Bruges qui y disposa le linge de Véronique, le coq de Saint-Pierre, le soleil, la lune, et des pièces de rareté unique. La nappe de première communion de Charles Quint, donnée ensuite par lui à l'église d'Audenarde, est transmise ici, avec ses armes, dans un coin. La couronne du Saint-Empire, posée sur l'agneau pascal, qui en a l'air dominé, écrasé sous ce fardeau, inexorable même pour ce qui est divin. Partout, le déroulement de ces exquises dentelles en larges bandes, en rectangles symétriques. Un caprice infini. Des fleurs, des palmes, un fouillis de lignes qui sont aussi mystérieuses que les lignes de la main. N'est-ce pas comme un vitrail de linge? N'est-ce pas comme une géographie de fils? Ruisselés, nappes, amas d'eau gelée, ruisselés calmes, ici taris et bus, aboutissant au vide, là s'éparpillant en méandres, en petites ondes qui se prennent et se quittent. C'est la caractéristique du point de Bruges, ces traits intermédiaires qui raccordent les rosaces, les dessins épars. D'autres points sont comme filigranes. Celui de Bruges est une orfèvrerie plus massive, quoique si frêle encore. Jardin blanc. Marguerites et fougères de gelée, comme nées sur une vitre et qu'un souffle abolirait. Dans la précieuse collection, il y en avait qui remontaient jusqu'à l'an 1200. N'était-il pas logique qu'elles aboutissent ici? Cette délicieuse idée de collectionneur des dentelles pouvait-elle surgir ailleurs qu'à Bruges? La Bruges des béguines, des permanentes dentelières, des monuments aux guipures de pierre, où elle fut réalisée en ce nom doux comme une parole d'ange et qui résume la ville entière, musée de dentelles. Quand on inaugura le palais restauré, ce fut un émerveillement.
qui grandit le renom de Borlut. Décidément, il était le bon génie de la cité, qui la révélait à elle-même, lui mettait au jour d'occultes trésors qu'elle ignorait. On l'en récompensa par des honneurs publics, on lui décerna des fêtes, des sérénades. Un autre honneur lui échut dans le même temps, qui le toucha davantage. L'antique Gilde des Archers de Saint-Sébastien l'élut à l'unanimité pour la présider. C'était la plus ancienne société de la ville. Dès 1425, elle recevait du magistrat une rente annuelle de 100 livres parisis. Elle avait d'ailleurs pris part aux croisades. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, dans les cortèges et hommes-gangs où elle figurait, il y avait de petits nègres, des turcs, des hommes à cheval coiffés de turbans, pour entourer sa séculaire bannière. La confrérie occupait toujours le même local, ce vieux palais à svelte tourelle, gracieuse comme un corps de vierge, au bout de la rue des Carmes, où elle vint se fixer au XVIe siècle. Tout s'y conservait intact. Ce livre des legs funéraires, que chaque nouveau membre signait, en allouant des sommes pour sa messe mortuaire, et autres minimes emplois de fonds après décès. Les bijoux donnés par le duc de Gloucester et les souverains qui en firent partie, c'est-à-dire des coupes d'honneur, un oiseau et un sceptre en argent ciselé, qui constituent les insignes du roi du tir et du chef homme. Dans la salle d'honneur s'alignent les portraits de tous ceux qui furent l'un ou l'autre et tiennent dans la main, peintes, les séculaires argenteries qu'on montre encore dans les écrins. Ces portraits éternisent les plus grands noms de la Flandre, car le chef-homme était choisi entre les premiers par la naissance ou l'éclat des services. Bridal, le rude communier, fut chef-homme de la gilde de Saint-Sébastien, et aussi ce Jan Adornus, chevalier des croisades, donateur de l'église de Jérusalem, dans laquelle vit son image de pierre, par-dessus le sépulcre où il repose. À cause de tant de grands souvenirs, cette fonction constitue une des magistratures honorifiques les plus enviées de la ville. Elle fut offerte spontanément à Borlut, que son nom d'abord autorisait, car il appartenait lui-même à l'antique armorial flamand. Un de ses ancêtres fut le héros de la bataille de Gavre. Mais que surtout ses glorieux travaux et la résurrection de la Grutus désignaient au suffrage. Élu, il reçut l'investiture selon les rites. Au banquet inaugural figura, comme il le fallait, le traditionnel plat de crête de coq, par allusion au tir à l'arc et au volatile qu'on fait tomber du mât. Borlut fut heureux. Il revécut ainsi le passé, fut le contemporain, un moment, de l'ère glorieuse. Il en avait reconstitué le décor. Maintenant, il en atteignait l'esprit. L'âme ancienne de la Flandre demeurait dans la gilde, aux plis fanés de sa bannière, aux lèvres des vieux portraits qui le seconderaient en silence, deviendraient ainsi les élateurs de la cause. Borlut connut la joie des réalisations. Il avait bien fait d'aimer la ville, de recréer son passé, de vouloir qu'elle vécût en beauté, d'en faire une œuvre d'art, et son œuvre d'art. Cet amour pour la ville ne l'avait pas trompé, du moins. Il le sentait réciproque à cette minute de triomphe. Qu'était-ce dès lors que tous ces minimes ennuis humains, son foyer morne, barbe irascible, un peu de crise et de querelle, la cendre quotidienne de son âtre? Au-dessus de la vie, il monta dans son rêve, comme il montait dans la tour. Son rêve était une tour aussi, du haut de laquelle il voyait la ville et l'aimait de plus en plus, en la regardant dormir, si belle. Chapitre 15. Un jour d'hiver, Borlut posséda tout son idéal,
une harmonie culminante, la ville devenue enfin l'œuvre d'art, couleur d'un vieux tableau dans les musées, neige et or. Les flocons s'étaient accumulés durant la nuit. Maintenant, tandis qu'ils montaient au beffroi, le soleil émergea, patina les blancheurs. La ville apparut transfigurée et si pure. Les cygnes même, au bord des canaux, se trouvaient humiliés. Blancheur surnaturelle, diaphane comme celle des seuls lys. Tout était blanc. Borlut avait toujours éprouvé le charme et, pour ainsi dire, l'ivresse, la volupté du blanc. Étant enfant, ses doigts vibraient de manier du linge. Les nappes fraîches du dimanche, les toiles séchant sur les prés dans les blanchisseries autour de la ville, les surplis des prêtres au long de la procession, communiquaient à ses yeux un petit tremblement, comme la caresse de quelque chose d'un peu divin. Aujourd'hui, Bruges s'offrait d'une blancheur unanime. Les vieux toits, par terre rouge, étaient devenus des jardins blancs et en pente. Aux vitres, la gelée avait mis des écrans de dentelle. Les clochers officiaient en camaille d'hermine. Obites d'une vierge, d'œil blanc, couronnes en perles de givre, et ce doux poil de la neige. Il semblait que la ville s'était rapetissée. On l'aurait crue plus grande. C'est à cause de sa toilette de mousseline longue. Elle était morte, ainsi. Quoi de plus triste qu'une première communiante qui meurt, le jour même, avec sa robe toute neuve. Petite mariée de la mort, Bruges était celle-là. Borlut la regardait, roide et immaculée. Quand il fallut, à l'heure coutumière, éveiller le carillon, il trembla, n'osa qu'à peine. Quel hymne assez chaste! Quelle motée de béguinage assez fluide pour moduler une si douce mort. Il aventura des sourdines, de molles arpèges, des musiques à demi dépliées, un effeuillement d'accords, une chute de plumes sans tache, des pelletées de neige, eût-on dit, sur un cercueil déjà descendu dans de la neige. Tout fut conforme. Le carillon venait comme d'au-delà de la vie, cependant que la ville semblait déjà entrer dans l'éternité. Chapitre 16. Barbe était superstitieuse. Avec son teint d'Espagne, cette chair où saignait sa bouche trop rouge, elle avait bien le visage de son âme, car elle brûlait intérieurement d'une foi, espagnole aussi, religion violente et ténébreuse, pleine d'affres, de blessures de cierge, de peur de la mort. Cent craintes superstitieuses tourmentaient sa vie, comme les mailles d'un cilice. Le vendredi de chaque semaine et le 13 de chaque mois, elle demeurait en suspens et dans l'attente d'un malheur. Un miroir brisé était le présage d'une agonie. Il est vrai qu'elle eut plusieurs fois la confirmation de ses pressentiments et de ses songes. Peut-être qu'à cause de son étrange névrose, elle était avertie de ce qui allait venir. Ses nerfs communiquaient avec l'invisible. Ils nouaient leurs fils aux deuils en chemin, aux cloches prochaines, aux cœurs consanguins et jusqu'au cœur de Dieu. Télépathie mentale qui va d'âme en âme, comme la télépathie astrale va d'étoile en étoile. Or, elle avait fait une promenade récemment en compagnie de son père, qui, toujours sédentaire, eut brusquement ce caprice de sortir avec elle, pris de tendresse et d'affectueux abandon, comme s'il avait eu un remords de la dernière heure, un regret de trop de froideur depuis si longtemps entre sa fille et lui. Ils avaient déambulé longtemps, au hasard, à petits pas, leur marche rythmée, pour ainsi dire, par la cadence des cloches, qui, tout cet après-midi, tintèrent sans répit du haut des clochers dispersés. Glas de paroisse pour des obis du lendemain. À la porte de Saint-Sauveur, et aussi sur les murs vétustes de Notre-Dame, Barbe remarqua, comme elle n'en avait jamais tant vu, les grands papiers funéraires, faire part public, qu'on affiche, selon la coutume, pour annoncer le service, comme un spectacle. Et le nom du défunt y éclate en vedette. Ils avaient aussi rencontré un cercueil porté à bras par les ouvriers d'un menuisier, et qu'on conduisait, apparent et nu, vers quelque demeure mortuaire. Décidément, la mort était dans l'air, circulait autour d'eux. Il fallait un avertissement plus décisif. En arrivant derrière l'hôpital, ils virent tout à coup, sur le petit pont, un rassemblement. Les hommes criaient, des femmes jetaient les bras au ciel, blanches de stupeur. Ils apprirent qu'on venait d'apercevoir un noyé, un corps qui flottait là-bas, flasque et tuméfié, dans le canal glauque. À cet endroit, l'eau se fonce, abdique tout reflet. On dirait qu'elle descend toujours. Est-ce que le noyé revenait de cet abîme de silence? Avait-il vu le fond du canal? Il semble qu'ici, la mort s'aggrave. C'est une fin pire que la mort. Faut-il avoir touché l'infini de la désespérance pour se jeter dans cette eau-là? Barbe entraîna son père pour ne point voir l'affreux spectacle du noyé qu'on allait retirer du canal. Ils s'éloignèrent rapidement, devenus silencieux, hantés d'images funèbres. Sans doute que l'antiquaire pensa à la mort, à sa mort. Barbe le crut, sans avoir la force de l'en distraire, de trouver des paroles contre ce qui était déjà l'inévitable. Peu de temps après, une nuit, elle fut réveillée en sursaut. La sonnette de la porte avait retenti, à coups fébriles, accumulés. Barbe songea aussitôt, c'est un malheur qui sonne. En effet, on venait annoncer que le vieil antiquaire était au plus mal. Couché et presque endormi, il avait eu une attaque, dénoncée par un grand cri qui traversa la maison. Maintenant, il gisait, inerte. On ne savait rien. Les médecins n'étaient pas encore venus. Mots jetés à la hâte par une servante. Et la demeure réveillée, grand désarroi, peurs et sanglots. Et la course à travers la ville endormie, dans cette douce nuit d'été, qui semblait si incompatible avec la mort possible. Quand Barbe arriva avec Joris, Van Hull ne les reconnut pas. Il avait les yeux clos. La tête s'offrait, échouée parmi les oreillers, les écrasant, comme si elle était alourdie de tout le sang charrié au cerveau. De petites lignes violettes tachaient la peau, ces veines de sang qu'octobre met aux feuilles de la vigne. Une respiration rauque dont le bruit rabote le silence. Godelive se tenait debout, au bord du lit, penché sur le malade, plus pâle que les draps, semblant lui offrir son souffle ample et toute sa vie qu'elle était prête à donner. Des médecins arrivèrent, car, dans l'affolement, on avait couru chez plusieurs. Ils regardèrent, tâtèrent, indiquèrent de vagues palliatifs, annonçant qu'il était prématuré de se prononcer, qu'il reviendrait le lendemain, et se retirèrent, graves et indifférents. Longue nuit, nuit interminable, triste veillée, qui fut plus triste encore à l'heure où le jour vint, désolation de la lampe quand elle défaillit dans l'aube claire. Le mal était évident. Van Hull avait été frappé d'une congestion cérébrale, qu'annonçaient d'ailleurs de certains prodromes ses rougeurs, des somnolences. Au retour des médecins, le cas fut déclaré grave et minime les chances de salut. Godelive était toujours au bord du lit, appliquant les remèdes, luttant, espérant contre l'espoir. Elle était forte de son amour pour son père, ce tendre amour qu'il lui avait rendu par tant de soins et de caresses, une affection unique dont eux seuls avaient su la douceur et les délicieux échanges de chaque minute. Maintenant encore, elle l'appelait, elle se nommait par les petits noms tendres qu'ils se donnèrent, ces appellations sans aucun sens, noms de bêtes ou de fleurs, monosyllabes, épithètes, abréviations, bégaiements, ces signes conventionnels, ces mots d'ordre de tous ceux qui s'aiment, comme pour se marquer qu'ils sont un autre, l'un pour l'autre, que pour le reste des hommes. Elle le baisait en même temps au visage, sur les mains, promenant ses lèvres, imaginant débusquer le mal et qu'il disparaîtrait quand sa bouche serait posée partout. Barbe, au contraire, circulait par la chambre, angoissée, énervée, avec des crises de grands sanglots, puis des prostrations en un fauteuil où elle semblait regarder très loin, par-delà la vie. Quant à Ioris, il n'avait cessé de faire des courses. La nuit, il lui fallut quérir des médecins, puis réveiller un pharmacien, faire préparer les potions. Au matin, il dut se rendre chez le curé de la paroisse pour le prier d'apporter à Van Hull l'extrême onction et le viatique. Ce fut l'heure douloureuse pour la vieille demeure quand le prêtre entra, vêtu du rocher et de l'étole, muni d'une hostie au fond de la custode, précédé d'un enfant de cœur qui agitait une petite clochette. Les servantes avaient pénétré aussi dans la chambre de leur maître. La vieille Pharahilde, qui depuis plus de 20 ans était à son service, pleurait, de grosses larmes roulant, mettant des perles d'eau parmi les grains de son chapelet. Tout le monde s'agenouilla. Godelive avait disposé un petit autel sur une commode, blanc reposoir, ayant pour nappe ce voile en dentelle encore inachevé qu'elle avait fait elle-même pour la Madone de sa rue, sans se douter qu'elle tissait, avec les fils de chaque journée, le voile d'agonie de son père. On y posa le ciboire. Les prières commencèrent, murmurées, confidentielles, vols à peine dépliés, paroles latines à ras du silence. Quand le prêtre oignit le front, les tempes, avec le saint crème, l'agonisant eut de vagues contractions du visage. Était-ce un reste de sensibilité? Barbe, qui était tout près, les nerfs tendus à se briser, refléta sur sa face toutes les alternatives, nature impressionnable comme un miroir, et qui vit de reflets. Cependant, l'officiant était allé prendre le ciboire sur le meuble. Il s'approcha du lit, l'hostie entre les doigts. Tous s'inclinèrent. La clochette de l'enfant de cœur à nouveau tinta, bruit aigu et doux pourtant. Sonnerie frêle, goupillon du son qui aspergea un peu la chambre en prière. Van Hull avait eu la bouche dérangée pour le passage de l'hostie. Il sembla, à ceux qui étaient le plus proches de son lit, que, avant de se fermer, elle émit un vague chuchotement. Barbe parut effrayée et soudain espérante. Elle prétendit que le père avait voulu parler, qu'elle avait distinctement entendu son cri, quoique vague et à demi submergé. Il avait dit « Elles ont sonné !» Balbutiement de l'inconscience, image confuse du délire. Peut-être aussi qu'il avait senti, par ondes et moires successives, du fond de son enlisement, ce qui se passait à la surface de la vie. La parole attestée par Barbe s'expliquait. De la cérémonie de l'extrême onction, il ne perçut sans doute que le bruit de la clochette de l'enfant de cœur. Par une survivante sensibilité de Louis qui en avait transmis, grâce au fil d'un dernier nerf lucide, la sensation au cerveau. « Elles ont sonné !» Il avait peut-être entendu le tintement, vibration instinctive du tympan, ultime écho de la vie. Aux confins de la mort, il écouta la clochette sonner. Mais alors, pourquoi ce pluriel? Barbe, sans doute, trop nerveuse et mirant la mort, s'hallucina d'une phrase qui n'était née qu'en elle. Toute la journée, le malade râla parmi la demeure calme. À cause du grand silence religieux,
ce silence d'église que la maladie suscite autour d'elle, on entendait les tic-tacs enchevêtrés et grinçants du musée d'horloge. Les balanciers allaient et venaient. Les rouages avaient l'air de moudre le temps. C'était un bruit continu, un peu éraillé et qui ponctuait. Godelive s'attendrit en les entendant. Son père les aimait tant. Avec elle-même, ce furent ses plus sûrs, ses plus chers amis. Qu'allait-elle devenir sans lui ? Barbe, au contraire, s'en agaça. Leur bruit lui tourmentait les nerfs. Elle demanda à Yoris de les faire taire, d'arrêter ces grands balanciers qui balançaient aussi son cœur, ces rouages qui déchiraient sans cesse quelque chose en elle. La maison devint tout à fait muette. On aurait dit qu'elle était déjà morte, avant son maître. Celui-ci, vers le soir, empira. Son souffle rabota le silence à coups plus espacés, plus profonds. Les petites veines violettes s'élargirent. Toute la face était congestionnée. La sueur sans cesse sourdait à grosses gouttes qui lui mettaient au front comme une couronne de larmes. Le corps vibrait, par minutes, de grandes secousses. Le vieillard, encore solide, luttait contre la mort. Il avait allongé les jambes, les arc-boutait au pied du lit pour mieux se défendre. Tout à coup, la bataille sembla finir. Il y eut une accalmie, une embellie. Les petites veines pâlirent, le visage s'imprégna de sérénité, d'un commencement de sourire, d'une sorte de lumière surnaturelle, comme si le front était touché d'un matin inconnu. Plein de stupeur, les assistants virent le malade bouger, reprendre vie, eût-on dit. Distinctement, cette fois, et avec un visage de béatitude, de surabondante joie, ils l'entendirent proférer à deux reprises « Elles ont sonné ! Elles ont sonné !» Puis, se soulevant un peu, il étendit les bras, s'y appuyant, ainsi que dans les canaux de Bruges, s'appuie sur ses ailes le cygne qui veut sortir de l'eau quand il va mourir. Et le vieillard trépassa, comme on s'envole, tout blanc. Un moment après, Barbe tomba, raide et livide, en proie à une crise de nerfs. Yoris dut l'emporter, l'étendre sur un lit, où elle resta longtemps sans force. Quand il rentra dans la chambre mortuaire, il regarda son vieil ami, noble cœur, premier apôtre de la cause flamande. Il reposait, l'air d'un élu. Si peu humain déjà, c'était le marbre de lui-même, un buste copiant ce qu'il avait été, avec la transfiguration de l'art, la beauté d'une matière plus pure. Godelive lui avait fait sa dernière toilette rapidement et à peine pour ne pas le déranger ni lui faire du mal. Elle priait à genoux, baignée de larmes silencieuses, au pied du lit. Quand elle vit Yoris, elle l'interrogea. « Barbe avait raison. Vous avez entendu ses dernières paroles. Il l'a répété encore. Elles ont sonné. » Oui, il aura pensé à ses horloges, c'était le rêve de sa vie. Il aura cru qu'enfin elles sonnaient ensemble. Godelive retomba à sa prière et à ses pleurs, prise de remords d'avoir causé devant le mort, même pour parler de lui. Il faisait une chaleur accablante à ces 6 heures d'après-midi de l'été, en cette chambre que l'odeur de l'agonie et des potions affadissait. Il fallait l'aérer. Yoris ouvrit la fenêtre qui donnait sur le jardin et sur ceux d'alentour, espace de cour grise, de pelouses vertes et d'arbres. Borlute regarda sans voir, morne de la mort contemplée, et qui lui avait été un exemple, une leçon comme promulguée du seuil de l'infini. Elles ont sonné. Borlute avait compris tout de suite. Le vieillard, mourant, atteignit son rêve. Il n'avait donc pas espéré, ni voulu à tort. C'est à force de désirer les choses qu'on se les mérite.
L'effort humain n'est pas vain. C'est l'effort qui seul importe, puisqu'il s'accomplit quand il s'achève. Donc, il se suffit à lui-même et se consomme en soi. Ainsi, le vieil antiquaire avait tant souhaité que ses horloges et ses pendules, un jour, fussent à l'unisson. Il les entendit sonner, en effet, toutes à la fois, la même heure, l'heure de sa mort. C'est que la mort est l'accomplissement du rêve de chacun. On touche, dans l'au-delà, ce qu'on a convoité durant la vie. On est donc soi-même, enfin, réalisé. Borlut tomba en des abîmes de rêverie, songea à lui-même. Il avait aussi vécu jusqu'ici en plein rêve, fervent de la beauté de Bruges, avec ce seul amour et ce seul idéal qui déjà le consolèrent dans les quotidiens déboires d'un foyer sans bonheur. Il fallait s'en tenir à ce rêve, avec un désir immense et exclusif. Car le rêve, songeait-il, n'est pas même un rêve, mais une réalité anticipée, puisqu'on l'atteint au moment de la mort. Cependant, l'élu reposait. Par la fenêtre ouverte, nul bruit n'entrait. Seul, dans la chambre muette, on entendait quelques mouches qui voletaient. Neige noire, musique de deux ailes. Et c'était solennel, ce murmure des petites mouches, qui n'avaient été envoyées là, semblait-il, que pour rendre plus sensible le silence dont on a la conscience et la mesure que par le bruit, et qui se prouve d'autant plus vaste que le bruit est minime. Ainsi, le silence parut plus silencieux, le mort parut plus mort. Les éphémères faisaient comprendre l'éternité. Et longtemps, machinalement, Yoris écouta les bourdonnantes mouches, dont l'une, parfois, s'aventurait sur le lit, jusque sur le visage du mort, dont elle n'avait plus peur.